Amis, frères et sœurs, avant même que nous fassions quoi que ce soit, avant même que nous demandions quelque chose, avant même que nous reconnaissions nos torts, Dieu nous dit « Je vous donne ma paix, je vous fais grâce pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous pourriez me dire, ce que vous pourriez me demander. Je suis le Dieu qui aime son humanité, sa création, autrement dit, chacun et chacune d'entre nous. » Prions. Notre Père, tu es là, au milieu de nous et en nous, afin que dans ce temps de culte, nous puissions accueillir une parole qui féconde notre existence, afin que dans ce temps de culte, nous puissions partager avec des frères et des sœurs notre écoute de ta parole et notre prière. Béni sois-tu, toi qui nous rassembles. Amen. Et nous chantons le premier des spontanés du culte. Nous restons debout pour le temps de la louange. Éternel, c'est de toi que vient toute vie. Tu es présent dans chaque créature. Tu es caché et présent, comme la vie au fond de chaque être. Éternel, si tu te retires, nous périssons. Si tu retires ton esprit, nous ne sommes plus que des cymbales retentissantes et des coques vides. Si tu te retires, notre vie n'est plus qu'une somme de devoirs, et ça, ce n'est plus vivre. Mais tu renouvelles ton amour, alors nous pouvons aimer à nouveau. Tu envoies ton esprit, alors nous pouvons te reconnaître en tous nos frères et sœurs. Par le Christ, tu es vivant en nous, alors nous sommes vivants en toi. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres, je me réjouirai dans l'Éternel. Amen. Et je vous invite à prolonger la louange avec le chant du psaume 84. Dans ta maison, je suis heureux, nous le chanterons en entier.
Thank you.
Prenez place. La liturgie de ce culte est un petit peu modifiée aujourd'hui, donc nous n'aurons pas toute la séquence volonté de Dieu, prière de confession et annonce du pardon. Nous ne chanterons donc pas les spontanés qui leur sont associés. Mais cependant, je vous invite maintenant à nous recueillir chacun et ensemble dans la prière, d'après une prière de Tagore que Françoise va dire.
Éternel Dieu, là où l'esprit ne trouve pas de crainte, là où on l'emporte la tête haute, là où la connaissance est libre, là où le monde ne s'est pas brisé en mille domaines enclos de hauts murs par des luttes intestines, là où les mots viennent des profondeurs de la vérité, là où un inlassable effort est entrepris vers l'avenir, vers la vie, là où le clair courant de la raison ne s'est pas perdu dans le sable stérile des habitudes, là où tu invites l'esprit à progresser, à élargir sa pensée, à passer à l'action, dans ce havre de liberté, accueille-nous, ô Éternel notre Dieu. Que notre cœur y demeure, que notre âme s'y ressource infiniment, que notre esprit s'y éveille chaque matin, que notre corps s'en réjouisse, que notre être entier en soit irrigué, en soit illuminé, et qu'à la suite de Jésus de Nazareth, avec le Christ vivant, puissance en nous de vie et de partage, nous puissions déjà, là où nous vivons, vivre ainsi. Amen.
Et nous chanterons au cantique 258, « Nous te célébrons, Dieu de vérité », nous le chantons en entier. Si notre culte est un peu transformé ce matin, c'est grâce à Valentin. Valentin que nous nous réjouissons particulièrement d'accueillir aujourd'hui parmi nous, parce que Valentin a souhaité faire un pas dans son chemin de vie et de foi. Un pas en prenant publiquement, solennellement place dans la communauté protestante et ici au foyer de l'âme. Et nous sommes heureux d'être là pour l'entourer, pour partager avec lui ce moment important pour sa foi et pour sa vie. Valentin a également souhaité la présence proche de Françoise, qui participe avec lui à la pause spirituelle, et puis Antoine, également présent en tant que membre du conseil presbytéral. Alors je vous invite tous les trois à approcher, à venir sur l'estrade. Viens par là, que je puisse te parler sans tourner la tête. Valentin, tu as cheminé avant d'arriver au foyer de l'âme. C'est par hasard, voilà, que tu es venu ici, mais tu ne venais pas de nulle part, tu avais déjà un chemin. Et tu as trouvé ici un lieu de partage, un lieu d'approfondissement de la foi au sein du protestantisme libéral. Tu as donc pris place dans ceux qui participent à la pause spirituelle, dans le groupe de jeunes adultes et puis bien sûr au culte. Et aujourd'hui, tu prends la parole. Alors, nous t'écoutons, Valentin, pour ce que tu as à partager avec nous de ce chemin passé, de ce bonheur présent et puis de ce que tu crois.
Alors, déjà, bonjour à tout le monde et je vous remercie d'être là. Et c'est un vrai plaisir d'être accueilli ici et de parler devant vous. Dans son récit Le Royaume, l'écrivain Emmanuel Carrère nous dit « Derrière toute conversion au Christ, je pense qu'il y a une phrase, et que chacun a la sienne, faite pour lui, qui l'attend. » Et c'est, me concernant, cette phrase, ou plutôt ce passage biblique, que j'aimerais partager avec vous ce matin. Il s'agit donc du premier livre des Rois, chapitre 3, versets 4 à 15. Donc il s'agit du moment où Salomon vient de devenir roi. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit « Demande ce que tu veux, je te le donnerai. » Salomon répondit « Tu as agi avec une grande fidélité envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait devant toi en suivant la voie de ta loyauté, de la justice et de la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé envers lui cette grande fidélité et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Voilà pourquoi il en est ainsi en ce jour. Maintenant, Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un petit garçon, je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera jamais plus après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous tes jours aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu suis mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, c'était un rêve. Il revint à Jérusalem et se tint devant le coffre de l'Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et donna un banquet pour tous les gens de sa cour. Ce passage que je viens de vous lire est l'un des premiers du corpus biblique qu'il m'a été donné de lire. Je viens d'une famille athée, je n'ai eu aucune éducation religieuse, et lorsque mon professeur de philosophie de Cagnes nous parla en cours du roi Salomon, j'achetai le soir même ma première Bible, je lus ce passage du livre des rois, et j'eus aussitôt la certitude que ce livre allait désormais avoir une place centrale dans ma vie. Ce premier contact avec l'écriture venait rencontrer d'ailleurs dans ces années où je passais du lycée aux études supérieures une sensibilité que j'exerçais au contact notamment d'auteurs et d'artistes chrétiens. Pascal, Simone Weil, les Annonciations peintes à la Renaissance et étudiées par Daniel Arras, ou encore la musique de Bach, notamment les variations Goldberg que je découvris par le très beau film de Matt Ross, Captain Fantastic. C'est donc d'abord par ma sensibilité esthétique et intellectuelle que le doute de la foi s'insinuait dans moi. Et c'est à nouveau par une œuvre littéraire, Le Royaume d'Emmanuel Carrère, que je fis la rencontre du Christ. Je me plongeai dans les quatre évangiles, le livre des Actes et les lettres de Paul. Et c'est alors que me prit la parole du Christ. Je me suis vite rendu compte que ces mots me restaient à l'esprit, que sans y prêter attention, je les ruminais. Par exemple, « Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Ou encore, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains. » Et un autre te mettra ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas. » C'est donc une parole qui m'était donnée dans cette rencontre, une parole qui devait demeurer présente à mon esprit tout au long d'une recherche spirituelle au cours de laquelle je suis allé dans des messes catholiques, un dojo zen à Lyon, et à laquelle j'associe également ma pratique, plus ou moins régulière, du yoga. Et lorsque finalement, il y a quelques mois, j'entrais un peu par hasard au foyer de l'âme, c'est aussi une parole qui me retint. Cette parole à laquelle le culte protestant accorde tant de place dans la prédication, celle aussi des paroissiens avec qui j'ai pu tout de suite avoir des échanges riches et forts. Je reviens maintenant au songe de Salomon, parce que ce passage ne m'a jamais quitté et parce qu'il me semble contenir une bonne part de ce que je place en Dieu. Salomon demande un cœur intelligent ou un cœur qui écoute, suivant les deux traductions qui ont ma préférence. Et le Seigneur lui répond, « Puisque tu m'as demandé cela et pas autre chose, je te l'accorderai, et même ce que tu ne m'as pas demandé, je te le donnerai en plus. » Que faire de ce passage ? Je m'arrête d'abord sur cette belle expression, un cœur qui écoute. Je le dis d'emblée, je ne sais pas ce que cela signifie. On écoute avec ses oreilles, mais écouter avec son cœur, je peux au mieux avoir une intuition d'un sens. Je suis d'autant plus prudent dans mon interprétation que je connais la suite du récit. Cette sagesse donnée ne suffira pas à préserver Salomon de la corruption. Voilà donc cette phrase, faite pour moi, qui m'attendait, un cœur qui écoute. Expression dont je ne comprends pas le sens et dont je sais qu'elle ne suffit pas à me préserver du mal et de l'erreur. C'est bien peu. C'est bien peu, mais je crois que c'est tout ce qu'il me faut. Je n'ai qu'assez peu de savoir, et en matière de théologie, il est peu de questions sur lesquelles j'ai un avis établi. Le relèvement de Jésus, la Trinité, la naissance virginale, le degré de vérité de telle religion par rapport à telle autre, je n'en sais rien. Je revendique même en matière de religion un relativisme radical. Mais alors, en quoi est-ce que je place ma foi ? Je la place en ce Dieu qui me dit « Demande-moi un cœur qui écoute et le reste te sera donné en plus, gratuitement. » Je crois en un élan vital qui est recherche de la capacité d'écoute de mon cœur au vivant, à mes semblables. Je crois aussi dans l'intelligence du cœur d'autrui, dans cette intelligence du cœur qui n'est jamais aussi affirmée que collectivement. Je crois finalement en une mise en mouvement. Je crois en cette énergie qui est joie. Et il se trouve que pour ma part, cette joie et cette dynamique trouvent une source particulièrement vive dans cette parole de grâce incarnée par le Christ.
Merci pour cette parole, Valentin. Nous allons maintenant, avec Antoine et Françoise, procéder à un geste fort ancien dans l'Église, qui s'appelle l'imposition des mains. C'est un peu un geste de bénédiction, mais qui est aussi un geste de prière, parce que nous allons tous prier pour Valentin. Alors je vous invite à vous associer du cœur, de l'âme, à cette prière que nous allons maintenant prononcer. Approchez-vous, entourez-le. Nous prions. Dieu notre Père, tu as fait naître en Valentin le désir de te connaître et de rejoindre des frères et des sœurs dans une communauté. Tu l'as conduit parmi nous, dans la communauté, dans cette communauté qui est un visage de ton Église. Nous te remercions pour celles et ceux qui ont été témoins du Christ pour Valentin, pour celles et ceux qui le seront. Et nous te prions pour Valentin. Inspire-le, encourage-le par ton esprit qui est souffle de vie. Il continue à marcher dans la confiance, dans l'espérance et dans l'amour, à la suite de Jésus le Christ. Amen. Et Valentin a souhaité aussi que nous chantions le psaume 138, « Que tout mon cœur soit dans mon chant ». Prenez place. Le texte qui portera notre méditation de ce jour, eh bien, c'est celui que Valentin avait choisi pour aujourd'hui dans le premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 4 à 15. Au cas où quelque chose vous aurait échappé dans la lecture de Valentin, je vais le relire. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, pendant la nuit, l'Éternel apparut en rêve à Salomon. Dieu lui dit : Demande ce que tu veux, je te le donnerai. Salomon répondit : Tu as agi avec une grande fidélité envers ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait devant toi en suivant la voie de la loyauté, de la justice et de la droiture de cœur envers toi. Tu as gardé envers lui cette grande fidélité et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. Voilà pourquoi il en est ainsi aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais rien faire. Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, un peuple nombreux qui ne peut être ni évalué ni compté à cause de son grand nombre. Donne-moi un cœur qui écoute, pour gouverner ton peuple, pour discerner le bon du mauvais. Qui donc pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit : Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif à l'équité, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura jamais eu avant toi et qu'il ne se lèvera plus jamais après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant tous tes jours aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu suis mes voies en observant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, c'était un rêve. Il revint à Jérusalem et se tint devant le coffre de l'Alliance du Seigneur. Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix et donna un banquet pour tous les gens de sa cour. Demande ce que tu veux, je te le donnerai. Ce n'est pas une phrase que nous entendons ou prononçons souvent. C'est même une phrase qui semblerait suspecte ou même dangereuse. Soit la personne qui parle ainsi est emportée dans une passion sans limite, soit elle est réduite à une soumission d'esclave, soit elle est extrêmement puissante, peut-être un peu mégalomane. Et puis que répondre ? Que peut répondre la personne à qui est dite cette phrase, qui la reçoit pour lui ? Décroche-moi la lune ? N'importe quel caprice ? N'importe quelle ambition ? Certains pourraient dire que ce n'est ni suspect, ni étonnant, ni dangereux que Dieu parle ainsi dans ce récit du livre des Rois, puisqu'il est le Dieu tout-puissant et qui tient parole. Cependant, Dieu est-il là pour nous donner ce que nous voulons ? D'ailleurs, que voulons-nous ? Voici une question que nous pouvons nous poser en lisant ce récit. Sans être Salomon roi en Israël, que voulons-nous ? La question trouve un écho dans la réponse de Salomon qui demande un cœur qui écoute. Et le cœur, chez les Hébreux, représente non pas le siège des émotions, comme aujourd'hui pour la plupart d'entre nous, mais le cœur, c'est le siège de la volonté, le siège de la décision. C'est donc du cœur de Salomon qu'est sortie cette réponse qui a tant marqué Valentin et beaucoup d'autres. Ce que tu veux, ce n'est pas un caprice. Ce ne sont pas les mille choses qui peuvent passer par la tête parce qu'elles font envie. Ce que tu veux, la volonté, se tient solidement ancré dans les profondeurs de l'être et de la pensée, selon ce que la personne croit, selon ce qui l'oriente, selon ce dans quoi elle respire. Et ce n'est pas une démarche égoïste à laquelle Dieu exhorte Salomon, mais à une véritable réflexion sur ce qui est bon pour lui, sur ce qui va du côté de la vie, dans ses circonstances, dans sa situation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une démarche de responsabilité. Et la réponse de Salomon à Dieu est aussi réponse à sa situation de roi dont la charge consiste à gouverner en Israël. Et si nous ne sommes pas rois ni reines, je ne crois pas, si nous ne gouvernons pas de peuple, nous gouvernons au moins un peu notre existence. Et nous avons des responsabilités familiales, professionnelles, sociales, ecclésiales. Et nous pouvons entendre une reprise de cette question, par exemple, dans ce que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Jean. « Tout ce que vous demanderez à Dieu en mon nom, il vous le donnera. » C'est quoi ce « tout » ? Ou encore ce que Jésus dit à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. « Tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, vous le recevrez. » Mais que demandons-nous ? Et que voulons-nous ? Une autre question est inscrite dans ce que Dieu dit à Salomon et Jésus à ses disciples. Qu'est-ce que Dieu peut donner ? Autrement dit, quelle représentation de Dieu avons-nous ? Quel est le Dieu auquel est adressée notre foi, le Dieu que nous prions ? Car Dieu n'est certes pas réduit à nous donner ce que nous aimerions avoir ou être. Il n'est pas à notre service. Dieu n'est pas un moyen pour parvenir à nos fins, même si elles sont extrêmement respectables. Depuis Jésus de Nazareth, il n'est plus vraiment possible de croire en un Dieu qui intervient directement dans les affaires du monde, dans les phénomènes naturels ou dans les malheurs qui affectent les humains. Même si la foi en ce Dieu interventionniste est prégnante dans bien des livres de la Bible hébraïque, et même si des chrétiens le croient encore, trouvant cette croyance d'un Dieu qui intervient un espoir ou une explication face à ce qu'ils vivent. À ces deux questions essentielles, qu'est-ce que je veux ? En quel Dieu est-ce que je crois ? Nous trouvons quelques éléments de réponse dans ce que dit Salomon. Et vous avez remarqué que sa réponse est longue. Il ne se contente pas de dire « S'il te plaît, je voudrais un cœur qui écoute ». Salomon commence par relire son histoire. Il réfléchit à qui il est, à d'où il vient. Une réflexion posée en relation avec l'Éternel qui a ouvert devant lui la question de la profondeur et de la qualité de sa volonté. Et cette introspection comporte trois étapes. Premièrement, Salomon se souvient que l'Éternel a agi avec une grande bienveillance et une grande fidélité envers David, son père. Bienveillance et fidélité, c'est aussi ce qu'a proclamé Jésus le Christ et ce qu'ont manifesté sa vie, sa mort et sa résurrection. Bienveillance et fidélité pour créer et recréer la vie dans le chaos, pour inspirer aux humains de créer avec lui un monde où chacun ait une place honorable. Bienveillance et fidélité gratuite. Dieu ne demande rien en échange. Bienveillance et fidélité envers chacun, envers chacune. Dans le récit pour Salomon, à qui Dieu ne reproche pas d'avoir pris, juste avant le récit que nous avons lu, d'avoir pris pour femme la fille de Pharaon, la première d'un très très grand nombre d'épouses et de concubines étrangères qui introduiront en Israël d'autres dieux devant lesquels Salomon finira par s'incliner. La bienveillance et la fidélité de l'Éternel ne garantissent pas les nôtres en toutes circonstances, car elles n'enferment personne et ne s'imposent à aucune volonté humaine. Deuxièmement, dans sa réflexion, Salomon se souvient de la manière dont David a vécu et gouverné, en suivant la voie de la loyauté, de la justice, de la droiture du cœur devant l'Éternel. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, disait Jésus de Nazareth, et les besoins élémentaires, manger, boire, se vêtir, tout cela sera donné en plus. Puisque par la justice et dans la justice, tous peuvent avoir la nourriture et le vêtement et même un toit. Nous savons également que la droiture de cœur de David ne l'a pourtant pas préservé de faire tuer le premier époux de la mère de Salomon, Bathsabée. Mais cette droiture de cœur lui a permis de reconnaître sa faute devant le prophète Nathan. Et selon la tradition biblique, elle lui a inspiré cette droiture de cœur, un des plus beaux psaumes, prière de repentance et de confiance, le psaume 51. Car la droiture du cœur, c'est un cœur qui se tourne et se retourne vers Dieu, c'est-à-dire une volonté capable de revenir après s'être égaré, une volonté qui se souvient de la fidélité divine après l'avoir oubliée. Et Salomon se voit lui-même comme le fruit de la fidélité et de la grande bienveillance de l'Éternel, auquel répondaient la loyauté, la justice et la droiture de cœur de David. La dynamique de relation entre Dieu et l'être humain est fructueuse pour l'avenir et pour l'humanité. Elle engendre des possibles, elle ouvre des portes, elle resserre des liens, elle supporte dans l'adversité. Alors, troisième étape de sa réflexion, Salomon se reconnaît lui-même, humblement, comme un petit jeune homme qui ne sait rien faire. Littéralement, en hébreu, il ne sait ni entrer ni sortir, ce qui signifie qu'il ne sait pas conduire ses armées. Et pour un roi, c'est quand même un handicap. Mais puisque Dieu s'adresse à lui, Salomon se révèle lui-même, à lui-même et à Dieu, dans la nuit, dans le rêve, c'est-à-dire dans l'intimité, dans l'intériorité, comme un petit jeune homme qui ne sait rien. Loin de la magnificence du souverain qui a offert publiquement 1000 holocaustes sur l'autel du haut lieu à Gabaon. Et c'est la grande bienveillance et la fidélité de l'Éternel qui l'y autorise, et elle seule, à se montrer ainsi tel qu'il est. Ce ne sont pas les 1000 sacrifices, mais seulement la bienveillance et la fidélité, parce qu'elle le libère de l'obligation de se comporter à ce moment-là dans le rêve, dans la prière, en roi. C'est dans la même perspective que Jésus de Nazareth recommande à ses disciples de se retirer dans le secret de leur chambre pour prier, afin de ne plus être soumis aux pressions sociales, religieuses ou familiales, celles qui nous sont imposées ou celles que nous nous imposons à nous-mêmes, afin que la prière soit libre pour la reconnaissance des manques, des erreurs, des doutes, des questions, des peurs. Mais ce petit jeune homme qui ne sait rien est aussi roi en Israël. Et Salomon formule alors ce qu'il veut. Compte tenu de ce qu'il vient de dérouler, de sa compréhension de Dieu, de sa relecture de son histoire, des responsabilités qui sont les siennes, Salomon demande un cœur qui écoute, c'est-à-dire une volonté attentive à la volonté de Dieu, pour discerner le bon du mauvais et ainsi gouverner le peuple selon la justice. Salomon veut être éclairé pour accomplir sa tâche. Il demande un cœur ouvert à la lumière divine, un cœur à l'écoute de la parole de Dieu, une volonté qui s'accorde à la bienveillance et à la fidélité de l'Éternel. Et nous savons, cela ne se fait pas une fois pour toutes. C'est une prière de toute une vie, une prière de chaque jour, et quand bien même elle ne garantit pas, mais elle nous aide à vivre. La prière de Salomon nous éclaire sur la prière, sur nos prières. Ce que Salomon demande à Dieu, c'est que soit intensifiée en lui la conscience de la parole créatrice. C'est que sa volonté d'homme et de roi soit mobilisée pour le service du peuple, le service d'autrui. Salomon prie parce qu'il ne veut pas rester ce petit jeune homme qui ne sait rien. Sa prière exprime un désir de devenir, d'être autrement pour remplir sa tâche, pour le bien du peuple. Il ne demande pas à Dieu d'intervenir directement dans les affaires du royaume. C'est à lui, au roi, de décider et d'agir. Nous ne sommes ni roi ni reine, mais ne tâchons-nous pas de nous comporter là où nous sommes, dans ce que nous faisons, de manière responsable. N'avons-nous pas besoin, dans ce que nous sommes, là où nous sommes, de discerner le bon et le mauvais, le bien et le mal, c'est-à-dire... N'avons-nous pas besoin de la capacité à évaluer une situation et à y discerner ce qui favorise la vie des vivants et ce qui leur fait mal? Il n'y a rien de mécanique et d'automatique dans ce discernement, ni dans la reconnaissance de ce qui est juste ou de ce qui ne l'est pas. À chaque fois, dans chaque situation, il importe de se poser à nouveau la question. Sinon, le monde et l'existence deviendraient juste une série de cases à cocher ou pas, et cela n'est pas vivre. Un cœur qui écoute, c'est la volonté d'une personne qui ne sait pas tout à l'avance, qui réfléchit et qui prie, parce qu'elle n'est pas remplie d'elle-même, de son savoir, de ses croyances, de son pouvoir. Salomon ne se prévaut pas d'être roi. Il sait bien qu'il l'est. Mais dans sa prière, il ne cède pas à l'orgueil de se croire assez fort, assez intelligent, assez bien. Le cœur qui écoute, c'est une volonté attentive à résister à l'orgueil. Une volonté qui ne veut pas se laisser séduire ou envahir par cet orgueil qui sépare de Dieu et d'autrui. « Je suis au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, » dit le roi, « parce qu'il ne veut pas oublier qui l'a choisi et d'où il vient. » La prière comporte cette double dimension de lien à Dieu pour s'ouvrir à sa grande bienveillance, à sa fidélité éternelle, à son amour inconditionnel, à son œuvre créatrice, et de lien aux autres, un lien de justice, de reconnaissance, de solidarité. Salomon demande un cœur ouvert, une volonté qui n'oubliera pas de se reposer dans la prière, de se remettre à Dieu qui est puissance de transformation de l'être. Car la prière, ce n'est pas tellement pour porter le souhait que les autres changent, que de porter le désir d'être soi-même transformé. Le théologien John Cobb, cité par le professeur Raphaël Picon dans un ancien article d'Évangile et Liberté, écrit que prier, c'est nous aligner dans la direction vers laquelle Dieu est déjà en train de nous tirer, une direction pointée par le Christ. Finalement, ce que la prière demande à Dieu, c'est Dieu lui-même, créateur de l'humain, qui lui donne la vie vivante. Demande ce que tu veux, je te le donnerai. Et le récit raconte que Dieu donne à Salomon ce qu'il demande, un cœur qui écoute, sage et intelligent. Et selon la théologie qui est celle des auteurs du premier livre des rois, il lui donne encore plus. Tout ce que Salomon n'a pas demandé comme roi en Israël, richesse et gloire. De telle sorte, dit l'Éternel, qu'il n'y a jamais eu et qu'il n'y aura jamais plus personne semblable à Salomon. Et c'est bien ainsi que le roi d'Israël est souvent représenté comme un roi incomparable d'une majesté extrême. Mais en Jésus le Christ, ce n'est ni la richesse ni une gloire royale que Dieu donne, pas plus qu'il donne une longue vie. Mais il donne cette richesse d'être relié à des frères et des sœurs. Il donne cette gloire qui est la gloire d'aimer. Et puis il donne à chacun d'être cette personne unique, précieuse, incomparable, non pas par une supériorité quelconque, mais par une singularité remarquable. Non pas un moi gonflé d'orgueil qui pourrait se retrouver tout d'un coup flétri de peur, mais un soi relié à l'œuvre créatrice, avec une volonté délibérée et reprise au fil du temps d'y prendre part à cette œuvre. Un soi avec un cœur qui écoute. Amen.
Thank you.
Voici le moment de la confession de foi. Je vous invite à vous lever pour l'entendre, à vous y associer avec le cœur si vous le souhaitez. Une confession de foi que Françoise va dire.
Éternel, nous croyons que tu fais toutes choses nouvelles pour le monde et pour nous, toujours et en tout temps. Toi, le Dieu de la résurrection, de la vie nouvelle et de l'humain relevé. Nous croyons que personne n'est enfermé dans la fatalité du malheur, mais que tu nous offres dans la foi l'horizon d'un bonheur et la création toujours possible. Nous croyons, grâce à l'humanité de Jésus, que l'homme est ton espérance et que ton amour pour lui est le même amour que tu as pour nous. Nous croyons qu'il est possible de nous laisser convertir à l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, et qu'ainsi le règne de Dieu peut advenir dans notre monde chaque jour par nos actes et par nos pensées. Nous croyons qu'une fraternité de foi existe avec tous ceux qui se soucient de ce monde et de ceux qui le peuplent, et qu'ensemble, quelle que soit notre tradition de foi, nous pouvons rendre manifestes toutes les choses nouvelles que tu crées pour nous. Amen.
Nous chanterons le spontané, le cœur de Dieu est révélé. Asseyez-vous. Voici quelques annonces, juste quelques, aujourd'hui, puisque je serai absente la semaine prochaine, de retour le 2 mai. Il y aura aujourd'hui, à la sortie du culte, parce que ce n'était pas possible avant, la collecte au bénéfice de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e arrondissement. Merci de soutenir cette action parce que les besoins sont très grands. La semaine prochaine, il n'y aura pas de pause spirituelle jeudi, parce que j'ai oublié de le prévoir un remplaçant. Mais il y aura jeudi quand même le ciné-club. Et là, je laisse la parole à Didier You.
Oui, bonjour. Vous avez remarqué, il ne fait pas très beau. Donc, ne partez pas en vacances de Pâques, puisqu'il y a trois grands moments dans la vie de la paroisse, cette quinzaine. Jeudi, un drôle de paroissien qu'on attend depuis bon moment, 19h45 et 19h, l'Anka a partagé. Je vous l'ai déjà dit, c'est une comédie, c'est un des rôles les plus originaux de Bourvil, puisqu'il joue un aristocrate ruiné, catholique, pratiquant. Dimanche prochain, second grand moment de la quinzaine, c'est moi qui préside le culte. Ça va, j'ai mal aux chevilles. Et par hasard, à cause du retard dans la programmation d'un drôle de paroissien, le jeudi suivant, ce sera, premier jeudi du mois, le cinéma au foyer de l'âme, dans un autre genre, ce sera un film de Louise Buñuel qui s'appelle Natharine. Quand j'étais petit, je comprenais pas ce... enfin, jeune cinéphile, je comprenais pas ce que ça voulait dire. J'avais pas compris que Natharine, ça veut dire Nazaréen. Voilà. C'est pas une vie de Jésus. C'est un film de Buñuel avec Francisco Rabal, et non pas Francisco A. Rabal. Rabal. Voilà.
Je voudrais aussi, mais vous l'avez vu en arrivant, qu'il y a des confitures. Cassis, framboise ou framboise. Vous pouvez choisir et donc acheter à notre ami Vincent quelques pots de confitures à la sortie du culte. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres annonces à faire? Oui. Tu veux venir la faire, Fabrice?
Il reste des places pour la visite du musée Condé du château de Chantilly le samedi 13 mai à 10h30. Donc je vous rappelle que c'est tout simplement le musée le plus riche de France en peinture ancienne après le Louvre. Quelques 800 peintures anciennes où sont représentées la Renaissance italienne, le baroque italien, le classicisme français, le romantisme, avec les plus grands maîtres tels que Giotto, Fra Angelico, Botticelli, Philippe de Champaigne, Ingres, Delacroix, voilà. Une collection exceptionnelle dans son contenu, mais aussi dans son accrochage, qui est absolument unique en France, car resté inchangé depuis 1886, un accrochage décoratif, dans un cadre somptueux, le château de Chantilly, très beau domaine, collection constituée par le duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe. Par ailleurs, c'est l'ancien château des Montmorency. Par conséquent, un accent fort est mis sur les personnages des guerres de religion. Il y aura en plus encore l'exposition temporaire « Portraits des guerres de religion » avec des portraits par les cloués. Voilà. Donc une visite prévue le matin pour être au calme, car ce sera le week-end des plantes, donc il y aura certainement beaucoup de monde dans les jardins, mais comme ça nous on sera tranquille au château le matin, et ensuite on pourra pique-niquer dans les jardins. Ceux qui voudront prolonger pourront aller visiter l'exposition de dessins, portraits des guerres de religion. Voilà. Donc, il reste des places. Je vous invite à vous inscrire sur le site pasteur@foyerdelame.fr. Le plus simple serait de nous retrouver Gare du Nord à 8h50 pour prendre ensemble le train. 20 minutes de trajet, si ça se passe bien. Et ensuite, une demi-heure à pied, très agréable promenade jusqu'au château. Ceux qui préfèrent venir par d'autres moyens nous retrouveraient devant les grandes écuries à 10h. Tout cela sera rappelé dans le bulletin mensuel.
Voilà, le bulletin du mois de mai. L'amitié du mois de mai va effectivement bientôt parvenir. D'autres annonces? Alors, s'il n'y en a pas, j'ai la sensation d'oublier quelque chose. Hein. Bon, tant pis. C'est donc maintenant le temps de l'offrande. Je vous rappelle, on va le faire pendant quelques temps, que le foyer de l'âme dispose également maintenant d'un panier connecté. Si vous n'avez pas de monnaie, c'est très pratique. Les deux moyens de donner votre offrande sont possibles. Avec le panier connecté, cela reste une offrande anonyme. Et pendant le temps de l'offrande, comme d'habitude, nous allons chanter. Et nous allons chanter le cantique 266, « Ô Jésus, mon frère ». Asseyez-vous. Nous nous rassemblons dans la prière d'intercession avec... Nous associons à cette transcription du Notre Père. Ô source inépuisable, enfouie en notre tréfonds humain, d'où naît le goût et le souci de vivre vrai. Que nous soyons attentifs à ta présence discrète, sans cesse à l'œuvre en chacun de nous, quel que soit le nom qu'on te donne. Qu'à ton inspiration s'éveillent et s'ouvrent largement les cœurs. Que tes appels perçus au plus intime soient notre pain quotidien. Que suscités inlassablement à la foi en nous-mêmes, nous croyons en notre prochain, en dépit de nos médiocrités et de nos manques de fraternité. Et qu'ainsi nous évitions autant que possible les impasses. Et que nous y étant fourvoyés, nous puisions en toi la force de nous relever et de poursuivre le chemin. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané de la feuille de culte avant la bénédiction. L'exhortation d'après la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Vivez en paix entre vous, donnez du courage à ceux qui en ont besoin, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amis, frères et sœurs, l'Éternel vous bénit et vous garde. L'Éternel tourne sa face vers vous et vous accorde la paix. L'Éternel lève sa face vers vous et vous donne sa grâce. Allez en paix. Amen.